tout de suite sur E-Radio, retrouvez Île d'Europe, une émission présentée par Boris Medjori.
Donc là, en quelques phrases, on a réglé le problème du sexe des anges.
Et bienvenue Île d'Europe, survivre dans un continent qui bouge. Voici le second épisode en compagnie de Delphine Lauritsen, chercheuse en études grecques et plus précisément byzantines, pour continuer notre conversation. Cette fois autour de la culture byzantine, de l'Empire byzantin. Bienvenue Delphine.
Bonjour Boris.
Au début de notre conversation, tu as évoqué que si aujourd'hui nous connaissons la culture grecque classique, et si Racine a écrit Phèdre, cela est dû au travail des transcriptions et transmissions faites pendant l'Empire byzantin, un empire où les habitants s'appelaient eux-mêmes romains et pas byzantins, et où, si je comprends bien, les Grecs avaient remplacé le latin comme lingua franca.
Alors,
tu me corriges si je me trompe.
C'est pas pour corriger, mais c'est plutôt pour nuancer. C'est-à-dire que le latin n'était pas la langue de l'ensemble de l'empire. La lingua franca est effectivement le grec, mais dès avant l'Empire byzantin. Le latin est essentiellement réservé à partir de l'époque impériale pour l'administration, pour l'armée. Mais il faut bien se représenter qu'on est dans un monde qui est multiculturel et multilingue. C'est-à-dire que paysan de base au fin fond de la vallée du Nil, il est trilingue au minimum, si ce n'est quadrilingue. Donc nous, ce qui nous semble extraordinaire, parler quatre langues sans avoir eu d'éducation, c'est en fait la réalité de cette époque-là. Et c'est ce qui fait aussi sa richesse culturelle extraordinaire. C'est-à-dire que, par exemple, pour n'en prendre qu'un, l'auteur sur lequel j'ai fait ma thèse, Jean de Gaza. Alors, Jean de Gaza a écrit un poème en grec absolument extraordinaire au début du VIe siècle après Jésus-Christ. Et des fois, il arrive qu'on me demande, mais ton poète Jean de Gaza, il vient de Gaza, enfin la ville qu'on connaît, la bande de Gaza. Et je réponds oui, parce que Gaza est une des plus anciennes villes connues au monde. Elle est nommée dans la Bible. Et si on prend en compte que Gaza devient ville romaine, puis une ville byzantine, où encore une fois une multitude de langues est parlée, eh bien, tout simplement, cela permet d'élargir les perspectives. Parce que Jean de Gaza était professeur de lettres à Gaza, et il est extrêmement dommage qu'on ait, suite aux vicissitudes historiques récentes, enfin, du XXe siècle, perdu finalement tout le patrimoine archéologique de la ville ancienne de Gaza, parce que Jean de Gaza décrit une œuvre d'art monumentale qui représentait le monde sous la forme de 60 allégories, 60 personnifications, donc la terre, la mer, le vent, le soleil, et nous avons perdu tout cela, sauf qu'il nous reste les textes. Et c'est là où Byzance est une civilisation à nul autre pareil, parce que Byzance nous a transmis l'écrit à travers les manuscrits, copiés tout au long du Moyen-Âge byzantin, mais aussi, et il arrive qu'on ait relativement souvent des nouvelles fraîches de l'Antiquité tardive ou de l'Antiquité tout court, sous la forme de papyrus, qui ressurgissent des sables d'Égypte, puisque c'est extraordinaire, en Égypte, le désert conserve tout, et on a des écrits qui ressortent. Alors ça peut prendre la forme de réemploi, c'est-à-dire qu'on a des textes qui ont été copiés dans l'Antiquité sur du papyrus, et qui se trouve réemployé dans le cartonnage d'une momie, par exemple.
Profitons de ton sujet de recherche scientifique à travers de ces financements du programme européen Maria Swodowska-Curie pour entrer plus dans les détails de la culture byzantine. Et il s'agit bien des anges.
Tout à fait. Alors, ce sujet des anges, il a pu paraître assez éthéré à certaines personnes, certains collègues qui m'ont dit « Oh là là, mais comment peut-on s'occuper scientifiquement d'une question pareille ?» Alors, Les anges, c'est une figure familière pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on visualise tout de suite une silhouette fluide, habillée de blanc, avec de grandes ailes. Bon, mais ce qu'il faut bien voir, et ce qui était l'objet de ma recherche, c'est que ces anges chrétiens, ils ne sont pas sortis de nulle part. C'est-à-dire que, précisément dans l'Antiquité tardive, dans cette transition entre l'Antiquité et Byzance, eh bien, toute cette tradition qui a pu y avoir avant se trouve récupérée, retransformée et donne finalement une image et un concept qui nous concerne tous. Le chérubin, l'image du chérubin qu'on peut avoir. Pour la plupart des gens, ça peut évoquer qu'est-ce que c'est un ange. Eh bien, ce sont les petits angelots, par exemple de la Madone de Dresde, peinte par Raphaël. Tu sais, c'est ces deux petits amours joufflus qui regardent en l'air, en ayant l'air de s'ennuyer un petit peu. Voilà. Alors, pour la plupart des gens, voilà ce que c'est qu'un ange. Et en fait, toute ma recherche consistait à montrer que l'ange byzantin, ce n'est pas cela. L'ange byzantin, c'est plutôt l'ange de Rilke, il est terrible, c'est l'archange Saint-Michel, il tient le glaive, il a un globe. Mais l'ange, c'est avant tout un concept philosophique qui existe dans la plupart des religions. C'est l'idée d'intermédiaire, c'est l'idée du lien, parce que Dieu est trop lointain, on ne peut pas s'adresser à lui directement. Donc on a besoin d'intermédiaires entre le niveau humain et le niveau divin. Et ange en grec se dit angelos, c'est-à-dire messager. On apporte un message des hommes à Dieu, de Dieu aux hommes. Mais cette figure qu'on a de l'ange qui vient de Byzance, et je précise ici que par rapport aux petits angelots dont on a l'habitude et qui sont une création, plutôt une recréation de la Renaissance, les anges byzantins ne sont pas des enfants. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ils ne s'inscrivent pas dans un procédé de génération. Ils ne sont pas issus d'une reproduction sexuée. Ils ne grandissent jamais. Ils sont créés par Dieu sous la forme définitive. Donc, ils sont asexués. Et donc là, en quelques phrases, on a réglé le problème du sexe des anges. Donc, c'est quand même pas mal si cette émission a pu contribuer
à
résoudre cette question-là. Donc, trêve de plaisanterie, à Byzance, les anges ne sont bien sûr pas sexués, mais ils sont genrés. Et ils sont genrés masculins. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'encore une fois, tout simplement, Dieu est genré masculin. Donc les anges étant des émanations de Dieu, le sont également. Mais le terme de chérubin, kéroubim en hébreu biblique, se retrouve encore avant, plusieurs millénaires avant, en Mésopotamie ancienne, et on a des textes qui se réfèrent au kéroub originel comme un ange, sauf que ce kéroub, eh bien, c'est un gigantesque taureau ailé à tête humaine qui garde les portes de la cité. Donc on n'est plus du tout sur la figure éthérée et légère de l'ange anthropomorphique, mais le concept est tellement puissant et tellement fort qu'il a traversé tous ces millénaires. Et peut-être je conclurai juste sur les anges avec quelque chose qui, moi, m'a toujours fait réfléchir, c'est-à-dire que quand on parle de la modernité, de l'actualité de Byzance à l'heure actuelle, un terme que tout le monde connaît, hiérarchie. On voit ce que c'est que la hiérarchie. Voilà, c'est quelqu'un qui est au-dessus de soi, qui donne des ordres. C'est la chaîne, c'est-à-dire que il y a le boss et puis il y a le sous-patron, il y a le sous-sous, etc. Eh bien, ce terme de hiérarchie, il a été inventé au début du VIe siècle après Jésus-Christ à propos des anges, à propos des hiérarchies célestes, à propos des ordres des 9 rangs d'anges dans le ciel qui séparent la terre du ciel. Et ça vient du terme hieros, qui veut dire sacré, et arché, donc ordre ou commandement. Et je trouve ça assez formidable qu'un terme qui modèle finalement toutes nos relations administratives et humaines à l'heure actuelle ait pu être inventé en plein cœur de Byzance pour parler des anges.
C'est assez extraordinaire, effectivement, Delphine. Et du coup, pourquoi c'est important aujourd'hui d'étudier les anges dans ce type de contexte, du contexte de la culture byzantine?
Eh bien, parce que ça fait toucher du doigt, finalement, que ce que j'appelle, enfin, je travaille beaucoup en ce moment sur le concept d'image mentale. On est sur une considération globale de ce que peut être l'idée, par exemple celle d'ange. On sait que l'ange est un concept philosophique de médiation, donc l'intermédiaire, mais en même temps, on se le représente sous une certaine forme. Et je crois qu'une image aussi familière que peut l'être pour nous celle de l'ange, et qui arrive directement de la période proto-byzantine, donc de cette période de l'Antiquité tardive, elle nous renvoie à cette proximité qu'on peut avoir au-delà de la géographie, au-delà de la chronologie qui peuvent sembler lointaines. L'idée est là et elle est extrêmement vivante. C'est-à-dire que l'ange anthropomorphique, il a été créé à une époque où la religion chrétienne devenait religion d'État, donc ça c'était une grande transformation, et où surtout l'iconographie, la manière de représenter ces choses-là, s'appuyait sur les images de la période précédente, les images de la tradition gréco-latine, pour donner quelque chose de totalement nouveau, mais encore une fois de tellement fort, que l'image de l'ange a traversé les siècles jusqu'à nous.
Et merci pour partager avec nous ce travail de reconstruction, de la transmission, de la transcription des concepts, des images, des mots de l'Empire byzantin. Delphine Lauritzen, une dernière question pour terminer. Suggestion des voyages. Si aujourd'hui on veut découvrir l'Empire byzantin, quelles sont les villes dans lesquelles on peut imaginer de voyager?
Alors là, la boucle est bouclée parce que nous allons conclure par la ville sur laquelle nous avons commencé, c'est-à-dire Istanbul. Et Istanbul, c'est un nom déformé mais qui vient du grec, c'est-à-dire que lorsque les voyageurs cherchaient justement une destination à laquelle se rendre, ils convergeaient vers Constantinople, et plutôt que de nommer la ville d'une autre manière, on disait où vas-tu ? Je vais vers la ville. Eisten-Pauline en grec, vers la ville. Et Eisten-Pauline, avec quelques modifications et contracté, ça donne Istanbul.
Excellent. Merci beaucoup Delphine Lauritzen, chercheuse en études grecques et byzantines, pour avoir été avec nous aujourd'hui ici à Île d'Europe. Efaristo.
Et Efaristo Parapoli, merci beaucoup à toi aussi.
Et vous pouvez retrouver ces condensés de l'histoire et de la culture de l'Empire byzantin sur notre site euradio.fr. Je vous remercie toutes et tous pour l'écoute et je vous souhaite une très bonne continuation avec les programmes de radio. Au revoir.
Boris Medjourine vous a présenté Île d'Europe. Retrouvez cette émission en podcast sur euradio.fr.